Donc, nous allons accueillir M. Jean-Jacques Nilès. En fait, au CNDPF, M. Jean-Jacques Nilès est bien, bien connu et bien apprécié, puisque M. Jean-Jacques Nilès a accompagné le CNDPF à rédiger et à proposer le livre « L'éthique dans l'exercice de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial ». Livre toujours en vente ici actuellement, donc n'hésitez pas, il en reste. Nous allons donc poursuivre la question de l'IA générative avec les professionnels. C'est un domaine de prédilection, l'éthique de M. Nilès. Et donc aujourd'hui, nous accueillons M. Jean-Jacques Nilès qui va nous présenter, qui va parler vers une éthique augmentée. Jean-Jacques Nilès est professeur de philosophie, maître de conférences en sciences de gestion.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis retraité de l'université. Maintenant, je suis conseil scientifique du cabinet Socrate qui se trouve à Annecy et qui a pour vocation de promouvoir l'éthique dans les pratiques professionnelles à travers les activités d'évaluation type HAS, la formation et le conseil, et puis les éditions, puisque effectivement, on a publié des bouquins sur l'éthique du MJPM ou avec le CNDPF. Donc on m'a proposé de réfléchir un peu dans le prolongement de ce bouquin, même s'il y a, enfin, je ferai quand même un rapport tout à l'heure, de réfléchir sur éthique et IA, qui est un sujet d'ailleurs qu'on voit assez souvent. Alors, bon, pour moi c'est une première, sur ce sujet-là. Et ce que je vais vous proposer peut-être un petit peu différent de ce que, en tout cas, je fais, moi, et puis d'autres sûrement d'habitude, en termes d'exposé. À savoir que je vais restituer un peu le fil de la réflexion que j'ai eue sur cette proposition éthique et IA, et puis finir plutôt sur... Ça rejoint un peu, par certains côtés, ce qu'a fait Sylvain ce matin, montrer des acheminements à travers l'IA sur le sujet... avec la difficulté qu'il y a des textes comme ça, mais voilà, on m'a demandé de faire le maximum de diapos avec le maximum de textes. Donc et finir par une proposition peut-être d'exploration, de travail avec certains d'entre vous qui auraient envie d'approfondir l'application en fait que je vais présenter. Et sur laquelle Sylvain serait d'ailleurs partant aussi pour travailler. On travaillerait éventuellement en binôme là-dessus. Ça c'est tout frais de ce midi. Alors, je vous restitue le cheminement avec une première partie un petit peu de réflexion générale, et puis après je rentre dans le dur, comme on dit, en faisant l'application sur la MJA-GBF. Alors cette image-là, ou ces images-là, c'est ce qu'on appelle, je ne connaissais pas le terme d'ailleurs avant, des paréidolies. Quand on voit des formes humaines dans des formes inhumaines. Bon, j'ai voulu les mettre là simplement aussi parce que il y a toute cette question, en tout cas la première partie de mon propos, c'est aussi de dire qu'il faut qu'on s'interroge sur cette espèce de rapport qu'on a avec l'IA comme si c'était quelqu'un. Le « comme si » là est très important. Et donc je suis parti un peu en me disant, voilà, ça ressemble à... Ça m'a intéressé aussi de voir cette notion de paréidolie où on projette une forme humaine ou pas humaine dans des objets. Et puis finalement, en creusant un peu, il y a beaucoup plus simple. C'est ce que les rhétoriciens du Marseille, notamment à la fin du XVIIIe, a appelé la personnification qui est plus juste. C'est-à-dire, comme chez Jean de La Fontaine, on attribue une personne... humaine à quelque chose qui ne l'est pas. Voilà, donc ça c'est le premier étonnement, mais je pense que je ne suis pas le seul. Et effectivement, souvent quand on commence à utiliser, je dirais pas l'IA, parce qu'effectivement il y en a plein, et nous, à travers IA, on voit essentiellement les LLM, et puis en particulier ChatGPT, au début, quand on l'utilise, on demande s'il vous plaît, s'il te plaît, merci, etc. Et puis après, finalement, quand on rentre dans la mécanique, si on l'utilise beaucoup, on finit par donner des ordres et à devenir non pas désagréable, mais enfin, on n'a plus besoin de... Donc ça, c'était juste ce petit... je voulais quand même dire quelques mots sur cet aspect de personnification. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du dit turc automate, dont j'ai reproduit là une des images. Ça vous dit rien ? Ouais, c'est une histoire quand même assez célèbre. C'est un type à la fin du 18e qui a créé une machine, dont on voit là une image, mais si vous cherchez sur Internet, vous aurez tout l'historique. Sur Wikipédia, il y a un historique même très long. Donc c'est une sorte d'ingénieur de l'époque qui fabrique un automate pour jouer aux échecs. Alors évidemment, ça m'a intéressé aussi parce que beaucoup de gens disent qu'il y a eu un basculement de l'IA au moment où elle a battu les meilleurs joueurs d'échecs du monde. Donc c'est marrant cette histoire. Et donc ce Turc automate qui est vraiment qui a été connu dans toute l'Europe, hein, qui passait d'une cour à l'autre parce que c'était une attraction et qui a joué contre des monarques aussi qui étaient certains très forts aux échecs. En fait, dedans, il y avait toute une machinerie, mais je ne vais pas être long là-dessus. Il y avait quelqu'un qui était caché dans la machine. Il y avait une supercherie avec des systèmes de miroirs, des tas de rouages et tout. Je vous passe le truc si ça vous intéresse, vous trouverez toutes les infos. Et en fait, donc, je me dis, l'IA, d'une certaine manière, c'est le Turc automate inversé, quoi. C'est-à-dire qu'on fait passer une machine pour une personne, alors que là, on faisait passer une personne pour une machine, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez intéressant de ce côté-là. Et cet aspect de personnification, il tient aussi au fait, alors j'en montrerai d'autres exemples qui ont dû vous frapper aussi en utilisant ChatGPT, si c'est cette appli que vous utilisez. Et c'est pour ça que j'ai mis la citation de Benveniste, hein, le linguiste philosophe, qui disait comment est-ce qu'on reconnaît un sujet ? Ben, un sujet, c'est quelqu'un qui dit « je ». Or, ChatGPT dit « je ». Et il ne dit pas seulement « je » comme ça, c'est-à-dire il exprime des choses. Donc là, je vous ai mis, je ne sais pas si c'est très lisible. Alors, je l'ai reprise de quelqu'un, mais il y a tout un texte d'Alouche qui est en science de l'éducation et qui a restitué dans un article tout un dialogue avec l'IA. Et à un moment donné, l'IA, et puis je vous le montrerai sur le métier de DPF, où je lui demande, mais est-ce que tu peux être aussi pertinent qu'un DPF ? Et il explique que non, etc. Donc, on a vraiment cette impression assez forte. Alors je ne sais pas si ça touche directement à la question de l'éthique, mais c'est presque impossible de se défaire de cette impression qui enfin c'est pas qu'il y a un dialogue, quoi, et qui paraît à certains égards plus. Alors moi je dis toujours par provocation, si l'automate nous donne le sentiment d'être quelqu'un, c'est aussi parce qu'on est souvent des automates dans ce qu'on se raconte. Vous savez, il y a eu des tests avec des médecins en santé où on met des patients en aveugle face à un dialogue qui est soit avec l'IA, soit avec des vrais médecins. Et on demande aux gens quel dialogue est le plus empathique, le plus intéressant et tout. Et il y a une proportion assez forte de préférence pour l'IA. Et évidemment, c'est parce qu'on a mécanisé beaucoup de choses que la mécanique derrière peut ensuite prendre le relais, quoi. Voilà, ça c'était quelques réflexions préalables. Alors je les prolonge, j'essaie d'être vraiment synthétique là-dessus, mais ça me paraissait important aussi. On a beaucoup de discours, même si peut-être ça va s'estomper, qui, on l'a entendu encore un petit peu aujourd'hui, qui appréhendent les choses sous le mode du risque, du danger, on va nous remplacer, etc., etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est une question un peu politique et puis peut-être d'opinion. Je voulais juste signaler que vous trouverez dans l'Antiquité grecque des textes, par exemple ici c'est un texte de Platon qui porte sur l'invention de l'écriture, où on dit ils n'auront aucune science, ils seront devenus des semblants de savants, et on a des discours où il suffirait de remplacer écriture par IA et on aurait à peu près le même raisonnement. Donc cette inquiétude par rapport à la technique, hein, puisque l'écriture était perçue comme une technique, elle est très ancienne. Donc je veux dire, par rapport à ça, je pense aussi qu'il faut qu'on prenne du recul. Et ce matin, il y a aussi eu beaucoup de choses qui sont dans le registre de « on y va, on s'en sert ». On prend la main dessus. Donc, ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, il y a des choses que j'ai faites il y a un mois, et ça évolue tellement vite qu'on voit que les gens sont déjà, on est déjà en train de passer du mode de la crainte à autre chose. Alors, on voit aussi beaucoup de discours du type, c'est comme le marteau. Hein, j'ai vu ça dans plusieurs papiers, interviews. C'est comme le marteau. Un marteau, ça peut tuer quelqu'un et puis ça peut faire du bricolage. Donc, c'est un outil neutre, mais ça dépend comment on s'en sert. Je ne peux pas être non plus long là-dessus, puis je ne pense pas que ça soit le but de la journée, mais c'est sûrement autre chose qu'un outil. Alors j'ai repris une définition qui est quand même très vieille, hein, celle de Simondon. mais qui est un des plus beaux livres sur l'histoire des objets techniques, si certains veulent regarder. Hein, vous prenez Gilbert Simondon du mode d'existence des objets techniques, c'est une merveille et qui, je ne sais pas combien d'années après, là, ça fait combien, 70 ou, est toujours, il fait l'histoire de l'ampoule électrique, etc. Et puis il réfléchit sur la technique et il dit bien, ben, en fait, les systèmes techniques, c'est des mélanges de machines et d'humains. Donc on n'est pas dans un outil qu'on prend et on fait ci ou ça, c'est quelque chose qui va modifier nos façons d'être, nos façons de notre rapport au monde. Et là, je fais une toute petite parenthèse, ce que disent les historiens des techniques et des sciences, c'est qu'on surestime très souvent l'effet à court terme des nouvelles technologies et on sous-estime leur effet à long terme. Donc, on n'est qu'au tout début de quelque chose, quoi. Et on est en train de dire, mais attendons de voir, mais très probablement, effectivement, ça va modifier en profondeur notre rapport au monde. Et je pense aussi que une des caractéristiques de l'IA par rapport à, ce matin, on a cité les métiers à tisser ou d'autres, on pourrait citer d'autres techniques, c'est que là, et ça, je pense que c'est ça qui nous fait aussi beaucoup peur, c'est qu'une technique qui touche les métiers intellectuels et pas les métiers manuels. En tout cas, beaucoup moins. Vous ne remplacerez pas une auxiliaire de vie à domicile avec une IA. Bon, elle pourra faire son planning, optimiser ses déplacements, etc. etc. Mais la tâche manuelle est trop complexe, sauf peut-être dans les entrepôts hein, où on range des cartons. Mais donc il y a beaucoup de métiers qui avant auraient été qui ont été impactés par d'autres révolutions techniques et qui là ne le sont pas. Par contre, les métiers de ceux qui conçoivent tout ça, comme les développeurs, eux, ils sont directement impactés. Donc on a une autre dimension. Et je crois aussi que ce qui nous fait un petit peu peur, c'est que, en fait, un certain nombre de philosophes, Derrida notamment, ont montré que dans l'histoire de la philosophie, il y a une volonté très forte de se distinguer en tant qu'humain, de dire l'intelligence humaine, elle est différente. Même la notion d'humain est une notion de différenciation par rapport à tous les autres êtres, avec l'idée qu'on est l'être juste en dessous de l'être suprême. Et là, ce qui se produit, c'est, si on regarde les dernières années, c'est que la sphère de l'intelligence s'élargit. On commence à se poser la question de l'intelligence des plantes. Pour les animaux, on voit bien... On est en train de dire, ah oui, mais il y a plein d'espèces qui communiquent. On a toujours dit, le roi Gourand disait, la différence de l'homme, c'est l'outil. Oui, sauf qu'on voit aussi des animaux qui... Bon, donc, par le bas, si on peut dire, ou je ne sais pas comment il faut dire, on voit que la frontière est fragilisée. Et puis maintenant, c'est du côté des machines. On dit, les machines, c'est nous qui les manipulions. Alors déjà, même si on a perdu la main sur... Il y a des gens, vous savez, qui reviennent à des techniques beaucoup plus simples en disant qu'il faut qu'on arrête tout ça parce qu'on ne peut plus réparer, quoi. Donc on a perdu... Mais quand même, là, il y a une frontière qui est franchie, bien sûr, qui est celle que ce qui nous était propre semble ne plus l'être, quoi. Ou alors qu'il faut aller le chercher ailleurs. On se demande, quoi, où est-ce qu'on va être. Alors donc, moi, ma posture, si on peut dire, c'est je pense que c'est important de le dire, c'est de dire, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, et pas sur le mode du frein à main serré, parce que je pense que ça sert strictement à rien. Là où une technologie est aussi efficiente, il n'y a rien qui l'arrêtera. Alors, la réguler, certainement, ça, c'est pas mon domaine, mais en tout cas, pas l'arrêter. Alors, il y a évidemment, il y a un des trucs, c'est qu'on n'arrive plus à distinguer. C'est vrai qu'il y a des systèmes logiciels qui repèrent encore ce qui est IA et ce qui ne l'est pas. Mais vous savez, vous avez dû tous voir qu'il y a quelques mois, un concours international de photographie a été gagné par un photographe qui a dit c'est pas moi, c'est l'IA, quoi. Il a eu l'honnêteté de le dire, avec des spécialistes de la photo. Donc on voit bien que. Alors il y a des domaines où c'est plus compliqué comme la musique et tout ça pour le moment, mais on voit bien à quelle vitesse il va devenir très compliqué de distinguer les produits IA et non. Et si on ne s'empare pas des choses, il va y avoir une tautologie complète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA va recycler des contenus qui sont IA déjà. Va compulser des musiques produites elles-mêmes par l'IA. Donc on a intérêt à mon avis, hein, sur le politique, de façon générale, à y aller à fond, parce qu'il faut garder une valeur ajoutée, il faut garder une capacité à créer des contenus nouveaux, parce que sinon tout va s'appauvrir. Parce que l'IA ne fait que réutiliser, pour le moment on parle d'IA générative, bon, mais elle s'appuie quand même sur tous les contenus existants sur le net. Voilà ce que je voulais dire en termes de voilà, ça c'était un peu la touche, quelles sont les réflexions générales au départ du sujet. Alors après, quand on dit éthique et IA, ça peut avoir deux sens, me semble-t-il. Le premier, c'est faisons de l'éthique par rapport à l'IA, amenons une réflexion éthique sur l'utilisation de l'IA. Et là, en gros, le sujet, c'est de dire que c'est une technologie très puissante. Ça a été dit ce matin, je ne sais plus si c'est Sylvain qui parlait de Dolly, je crois, là, enfin, du clonage. Petite parenthèse, mais vous le savez peut-être, nous, on a fait notre séminaire Socrate sur l'IA. On a invité une chercheuse qui bosse chez Dassault. Elle bosse sur les doubles numériques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc ça, c'est des formes d'IA qui n'ont rien à voir avec ChatGPT, avec les LLM, etc. En gros, maintenant, en médecine, on est capable de produire un double de notre organisme sous forme purement digitale qui va permettre de... Alors, des choses qui peuvent un peu nous inquiéter, de prévoir les pathologies qu'on peut avoir dans quelques années, parce que c'est une capacité. Mais là, pour le moment, c'est le but, c'est de cibler des traitements en simulant ce qu'ils vont donner sur notre organisme complètement recopié digitalement. Je ferme cette parenthèse, mais qui permet de dire aussi, il ne faut pas restreindre l'IA au modèle de langage, et même si c'est une part importante, quoi. Et puis, il y a des applications où on voit bien que très vite, si on peut développer un médicament en un ou deux ans au lieu de 10 ou 20 ans, on va pas freiner, quoi. Donc ça, c'est l'approche. On a une technologie extrêmement puissante. Comment on fait pour la réguler? Comment on fait pour mettre de la norme? Alors, on dit éthique. Je sais pas si c'est le bon terme qu'on utilise. C'est peut-être plutôt simplement du droit qu'il faudrait dire. Hein. Le RGPD, on ne dit pas éthique, on dit règlement, quoi. Bon, voilà, ça c'est un sens du terme, c'est on va réfléchir sur où est-ce que l'IA est légitime, où est-ce qu'elle est dangereuse, on va poser des normes, on va essayer de faire partager des normes, et on sait que ça va être extrêmement difficile, puisqu'il faudrait que tout le monde soit d'accord à l'international pour le faire. Et bon. Alors, au départ, peut-être quand on m'a proposé le sujet, c'est ça qui était... penser, quoi. Alors déjà, je ne suis pas compétent, donc je n'allais pas aller sur ce terrain-là qui demande des compétences sur l'IA Act, etc. Je ne les ai pas. Sur l'éthique, oui, dans le champ du social, mais pas sur un... Et puis je pense aussi que si on veut aller là-dessus, pour écouter beaucoup, j'ai beaucoup écouté Yann Lequin, des gens comme ça, qui c'est lui qui a inventé, enfin un des inventeurs du deep learning, hein, des systèmes de neurones artificiels, on voit bien qu'à un moment donné, si on veut aller sur ce terrain-là, il faut connaître le fonctionnement des choses. Et ça demande un niveau en mathématiques. Si vous avez envie de regarder par exemple Yann Lequin, vous trouvez sur YouTube, hein, Yann Lequin à Genève, il a fait un topo. Alors, il en a fait à la radio pour le grand public. Et c'est très intéressant parce qu'il a une réflexion sur est-ce qu'on va arriver à l'intelligence artificielle générale, quoi. C'est super intéressant. Mais je l'ai écouté comme ça devant un public de mathématiciens à l'Université de Genève. Et là, on voit le niveau qu'il faut avoir juste pour comprendre les questions, quoi. Non, mais c'est vrai, juste pour comprendre les questions. Et Yann Lequin va vous dire que lui, il ne comprend pas tout ce qui se passe dans les... Vous savez qu'aujourd'hui, les concepteurs de l'IA sont incapables... L'énorme surprise, c'est à quel point ça marche. Ils ne s'attendaient absolument pas à ce niveau de performance et ils n'arrivent pas à expliquer pourquoi. Donc quand vous voyez que les gens qui ont conçu le truc ne savent pas bien comment ça marche, vous dites bon... Alors de l'autre côté, on peut se dire, bah, du coup, on peut en parler aussi, quoi. Bon... Alors, donc, j'ai essayé d'aborder autre chose, qui est à quoi l'IA pourrait me servir dans mon job. Alors, j'avais déjà fait deux, trois expériences. pas avec le CNDPF, puisque c'était avant cette vague-là, mais sur la rédaction d'un bouquin sur la PJM avec la région PACA, on a commencé à regarder, et puis sur des analyses de situations d'éthique. Je vous en montrerai une ou deux, dans le bouquin il y en a un certain nombre. Donc on a travaillé, je ne sais pas si tout le monde n'a peut-être pas vu, on a travaillé sur des vignettes, donc des petites situations décrites rapidement, du type les animaux, comment, nos amis les bêtes, je crois que ça s'appelle, ou voilà. Il y a un foyer avec plein d'animaux qui occupent toute une pièce, et puis du coup les enfants bossent à trois dans une des pièces. Le budget est affecté par l'entretien des animaux, etc. etc. Et donc... Comment ? Oui, oui, alors, c'était... Oui, oui, mais parce qu'on a eu...
Oui. Non, on a le même.
On a le même. Non, en PJM, on en a une aussi avec les animaux, c'est pour ça que j'ai fait la confusion. Bon. Ben, je vais vous dire, le point de départ, une des premières fois que je fais ça, je fais travailler un groupe comme on a fait nous pendant 2 heures sur une situation de ce type-là, donc chef de service, délégué, etc. Et puis, au bout de 2 heures, je dis, tiens, on va tester un truc, on avait dû parler d'IA, le directeur s'intéressait à ça, je dis, on va tester un truc. Et puis, je fais un petit schéma, un petit prompt pour ChatGPT, je balance le cas, et en 3 secondes, il sort une analyse. Tout le monde était scotché, quoi. Voilà, donc j'ai commencé à me dire, bon... alors, sur certaines prestations, c'est évident que nous, en tant que cabinet, on va être impactés. Je vais vous montrer, d'ailleurs, on peut fuir, on peut se mettre la tête sous le tapis, mais non, il faut regarder le truc et se dire, qu'est-ce que... Et il y a des sujets sur lesquels, franchement, je ne vois pas comment on pourrait... Les projets d'établissement, les projets de services, les projets associatifs, quand vous regardez ce qu'il est capable de vous sortir, vous dites, là, il va falloir... Alors, bien sûr qu'on peut encore apporter de la valeur ajoutée, mais vous ne pouvez plus dire aux gens, il faut 10 jours pour faire un truc que lui va sortir. C'est ce qui a été dit ce matin par quelqu'un.
Oui.
Voilà. Donc, je me suis dit, il faut se cogner le truc, rentrer dedans et voir ce que ça donne. Bon. Alors ça, c'est le point de départ. Bon, sur les définitions, je ne sais pas si je ne vais peut-être pas m'apesantir sur les définitions. Alors, j'ai retenu, parce que les collègues m'ont dit, t'as beaucoup de slides, il y a beaucoup de textes, ça va être un peu saoulant. Donc j'ai réduit un petit peu, ou je vais résumer. En gros, ce que je vous propose, c'est de reprendre le cheminement dans lequel je me suis dit, qu'est-ce que l'IA peut m'apporter par rapport à une démarche éthique. Voilà. Alors, définition de départ, l'accompagnement, donc on vient de sortir un bouquin sur l'accompagnement tutélaire, celui-là, excuse-moi. Mais on a tout un chapitre sur... parce que cette notion d'accompagnement, elle est flottante, elle n'est pas claire, on la prend dans tous les sens et tout. On a essayé de produire une... Donc, bon, définition de l'accompagnement, qu'on propose en tout cas dans le bouquin après une revue de littérature, c'est une interaction entre un accompagnant et un accompagné dans laquelle l'accompagnant cherche à aider l'accompagné, à définir ses objectifs et à cheminer vers l'atteinte de ses objectifs. Voilà, ça c'est pas simplement pour définir le cadre de l'accompagnement. On reviendra dessus parce que l'application porte en partie là-dessus. L'intelligence, ça a aussi été dit ce matin, c'est une notion très discutée chez les psychologues. Certains disant que ça veut rien dire. En même temps, il y a des tests de mesure, il y a des mesures d'intelligence. Bon, en règle générale, on concentre l'intelligence sur la capacité d'abstraction, la capacité de raisonnement, la capacité de résolution de problèmes. Donc on va dire qu'un système ou une personne est intelligente si elle est capable de conceptualiser, d'agencer les concepts dans un ordre et selon des liens logiques, et à partir là, éventuellement, de résoudre un problème. Alors ce qui est artificiel, là c'est bizarre, c'est un peu bizarre, parce que ce qui est artificiel, c'est ce qui n'est pas produit par l'homme, et puis en même temps, le mot peut avoir un sens complètement différent, hein. C'est ce qui éventuellement est produit par l'homme et pas par la nature. Alors on voit bien, je voulais juste dire ça, que cette notion d'intelligence artificielle est très mal choisie. C'est pour ça que je proposais au début, j'ai oublié de le dire, plutôt de parler d'intelligence assistée ou d'intelligence augmentée. Quand on dit intelligent, et les gens qui ont choisi ce terme-là, il y a eu un gros débat entre les chercheurs et un certain nombre étaient contre en disant ça va créer une et aujourd'hui on est en plein dedans. On en sortira probablement. Mais intelligence artificielle donne tout de suite le sentiment qu'on a une espèce de reproduction de l'intelligence humaine. Alors, le terme, donc je préfère parler d'intelligence augmentée ou assistée, au sens où cette intelligence va exploiter des données de l'intelligence humaine pour les travailler à très grande vitesse. Alors, c'est peut-être ça qui est le plus étonnant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'étonne le plus, c'est la vitesse. C'est quand même absolument incroyable de voir que parfois en une ou deux secondes, vous avez une production d'autant de contenu. Et le test de Turing, qui est capable d'une conversation. Donc aujourd'hui, vous avez des gens, j'espère qu'il n'y a pas un psychiatre dans la salle.
Oui. Tu peux
sortir 30 secondes. Y a des gens aujourd'hui qui ont comme en plus les psychiatres ne sont plus accessibles, vous avez des gens qui vont pas bien et qui dialogue la nuit avec ChatGPT et les gens sont pas idiots. Si ça produisait pas une valeur, ils arrêteraient quoi. Donc c'est que ça. Donc le test de Turing est largement passé. On a le sentiment. Le test de Turing, c'est est-ce qu'on peut établir un dialogue? Est-ce qu'on a le sentiment d'échanger avec quelqu'un? Mais n'est certains diraient pas encore autonome. Alors. Je pense qu'on pourrait parler d'éthique augmentée. Je ne vais pas faire un laïus long sur la notion de augmenter techniquement. Donc quand on parle de réalité augmentée, hein, tout le monde voit un peu ce qu'on veut dire. Hein. On peut avoir des lunettes qui nous donnent des directions du texte quand on marche pour aider à ce ou pour visiter un musée qui vont vous donner, voilà tout ce qu'on appelle réalité augmentée. On pourrait peut-être parler, en tout cas c'est l'hypothèse, la question de départ, on pourrait peut-être parler d'une éthique augmentée au sens où en utilisant l'IA, on pourrait optimiser les différentes étapes d'une réflexion éthique. Donc, analyser une situation, voir quelles sont les... Alors, c'est ça qu'il faut... Je le mets à la discussion, mais... Pour prendre le travail qu'on a fait, par exemple, parfois on a passé plus qu'une demi-journée. Il y a eu une situation, notamment celle de la jeune fille, je crois que tu avais amené, ou je ne sais plus laquelle, on n'a pas réussi à finir, on a dû la remettre sur la scie. Bon. Là, l'hypothèse, c'est de dire, on va utiliser un outil qui fait ce boulot-là, à notre place, non pas pour qu'on fasse plus rien derrière, mais pour qu'on reparte de ça pour aller plus loin. Alors, pardon, je reviens en arrière, je fais une petite parenthèse. En fait, la démarche que j'ai là, d'habitude, on dit, et c'est ce que Sylvain a dit aussi ce matin, je lui ai fait remarquer, d'habitude, on dit, on va utiliser l'IA pour les tâches administratives, les trucs un peu pénibles, répétitifs, chiants, pour se dégager du temps pour l'accompagnement. Ça, c'est ce que tout le monde est en train de dire. Hein. Dans les hôpitaux, on dit, on va passer plus de temps avec les patients parce qu'il ne va pas falloir 3 heures pour... Bon. Là, moi, je prends une position quand même un peu différente. C'est dire, non, on va regarder ce que l'IA fait dans le cœur du métier. Ce qui n'exclut pas le premier point. Hein. Bien sûr que les tâches administratives, si on peut gagner sur le traitement des mails, tout le monde sera content. Là, ce que j'essaye de faire, c'est autre chose. C'est de dire, allons voir dans le cœur du métier, c'est-à-dire l'interaction d'accompagnement entre le délégué et la famille et les enfants, qu'est-ce que l'IA pourrait produire. Alors, je suis rentré par l'éthique, mais on va élargir après.
Ça va, c'est clair ?
Oui.
Alors, on lui demande de repérer le cadre juridique. C'est là, à mon sens, que pour le moment, elle fait plus de faute. Je le dis juste pour que, si vous l'utilisez en ce sens-là, faites très attention. Moi, je l'ai utilisé pour un bouquin et j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire pas trop contrôler, parce que je pensais que c'était évident. Il n'est pas sorti, hein, on a un groupe de travail en PACA là, sur la PJM, mais je me suis un peu fait tanner. Moi, il faut toujours dire, bien sûr, qu'on utilise l'IA, il faut la citer, il faut... Bon. Les références juridiques, ils m'ont dit c'est n'importe quoi. Donc sur le droit, je ne sais pas trop pourquoi, et probablement il y a une appli un peu spécifique, parce qu'il faut les cabinets juridiques, évidemment qu'ils vont utiliser ça, vu que le gain de temps que ça vous fait pour chercher dans la jurisprudence partout. Donc repérer le cadre juridique avec les réserves que je viens de dire, et dans les RBPP, bien sûr, là, ça fonctionne bien puisque l'HAS a tout mis en ligne, il va très vite repérer tout ce qui est intéressant, donc on gagne. Moi, pour les bibliographies, franchement, je gagne un temps, mais c'est très impressionnant, quoi. Et puis, avant, je posais qu'une seule question, ce qu'on fait souvent, on pose une question, on a la réponse, on arrête. En fait, il faut, il l'a dit aussi, hein, il faut continuer le dialogue, préciser, lui dire, mais attends, est-ce qu'il n'y a pas... Et après, ça devient... En fait, pour la première fois, fait là, et puis je vais essayer de montrer. Mais c'est vrai, passer 3 heures sur une même question, je n'avais jamais fait. Parce qu'on veut gagner du temps, donc on se dit, on va vite. En fait, là j'ai passé plus de temps. Il peut comparer des options. Alors, je vais vous montrer ce qu'il a fait sans que je lui dise rien, et puis après, je l'ai guidé. Mais au départ, je lui ai balancé un truc en lui disant pratiquement rien. Vous allez voir ce qu'il a sorti. Et puis, alors, une des questions que je me pose... et puis je vais travailler avec un groupe de mutuelles, peut-être, j'espère, sur cette question-là, c'est comment l'IA... Je travaille sur la question de l'autodétermination avec un groupe de mutuelles. On démarre en Bourgogne-Franche-Comté un projet là-dessus. Et on va... C'est pas le cœur du projet, mais ils sont d'accord pour qu'on regarde quand même si l'IA pourrait pas être mise au service des personnes accompagnées pour accéder plus facilement... Ben, par exemple, à la communication, vous faites de la CA, ben, avec une IA, les gens vont pouvoir aller beaucoup plus vite, et puis connaître leurs droits, connaître... et ça, il faut qu'on l'anticipe. Moi, je suis vieux, donc moi, j'ai connu l'arrivée d'Internet, quoi. Enfin, comme d'autres ici, les pouvoirs ont complètement changé. Le médecin tel que vous le connaissez aujourd'hui, qui est un peu en slip, hein, quand même, il faut le dire... pardon, j'espère qu'il n'y a pas de psychiatre dans la salle, il est un peu en slip parce que les patients arrivent, ils sont un peu experts de leur pathologie, ils vont sur un forum, ils vont sur les sites et ils disent non, mais ce médicament-là, c'est marqué que, etc., etc. Mais nous, avant nous, on avait le médecin, point. C'était la source unique de l'information et donc un pouvoir, c'est pour ça qu'il y avait un tel pouvoir de l'instituteur ou du médecin. Donc là, quand les gens peuvent accéder à la connaissance en quelques secondes. Alors avec Internet pur et... Alors il y a déjà de l'IA un peu partout depuis 50 ans, hein, mais bon, quand même, ce n'est pas comme ça. Il fallait encore avoir une capacité à aller chercher les bons trucs et tout. Là, je veux dire, un enfant de 7 ans, il peut se servir d'une IA. Pas les tiens, parce qu'ils ont une bonne maman. Voilà, donc quel va être l'impact? En tout cas, moi, c'est des questions, je pense, qu'il faut qu'on se pose. Quel va être l'impact de l'IA? On pense toujours aux professionnels, mais aux personnes accompagnées. Quand elle, je veux dire, quand elle va être là et puis qu'elle va dire, oui, mais dans la charte de l'ONU, c'est marqué que, dans le truc, c'est marqué que. Enfin, je vais vous montrer des exemples. Alors, je me suis dit, bon, on y va. Alors là, Je raconte l'histoire comme elle s'est passée, quoi. Hein. J'ai juste mis sur PowerPoint et je me suis fait engueuler pour ça, d'ailleurs. Alors, je lui dis, là, il n'y avait aucun... rien. Je lui dis, fais-moi une charte éthique DPF. Alors, je l'ai à peine relu. Hein. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, vous regardez. Mais il me sort une charte éthique DPF. Nous, on a bossé combien de temps pour faire notre charte éthique
2 ans.
Pas mal de temps. Elle est peut-être mieux. Alors, je ne lui ai pas demandé là, mais on pourrait... Je lui ai demandé sur d'autres sujets qui comparent le travail qu'on avait fait nous avec ce qu'il fait lui. Je vais vous montrer ce qu'il dit. Il dit qu'on a été meilleur. Hein.
Ah ben
il est malin. Hein. Il est malin. Il sait qu'il y a des clients en face. Voilà, donc il sort une charte. Alors après, on peut discuter. Mais ça, c'est imprompt. C'est évident que si vous lui dites, ouais, mais ton langage, il est ci, il est ça, fais-moi plutôt, tiens compte de ça et ça, il va, j'ai pas fait ça, il va faire des versions beaucoup plus sophistiquées. Moi, je la trouve déjà pas conne, quoi. Cette charte, elle dit, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas idiot. Et je lui dis, des règles de conduite. Ah, il me dit accueillir sans jugement, avoir une analyse partagée de la situation. Je lui ai rien dit jusque-là. Regardez ce qui me sort. Besoin essentiel de l'enfant priorisé, plan budgétaire co-construit. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui vous scandalisent là-dedans. Ça me paraît assez fidèle au cœur de métier. Alors, pourquoi ? Évidemment, parce qu'en une seconde, il a compulsé tous les textes du monde.
Dont le livre qu'on avait.
Alors, non, je pense qu'il n'est pas en ligne. Si le bouquin avait été en ligne, moi ça m'est arrivé sur un texte, je suis revenu plus tard, je lui ai posé une question et j'ai vu qu'il avait bien sûr intégré
mon texte.
Ce qui a été dit aussi ce matin. Vous l'alimentez aussi, donc si vous êtes sur des sujets très pointus, sur les sujets banals, on n'arrive pas à voir, qu'est-ce que on est le 10 millionième, mais si vous êtes sur un sujet hyper pointu, et que vous l'alimentez, pas que en posant la question, hein, mais que vous l'alimentez dans du texte. Par exemple, vous lui demandez un résumé d'un texte. Moi, j'ai fait ça, vous lui donnez 20 pages, vous lui demandez un résumé d'un texte. Il l'a absorbé, et si vous le réinterrogez, si le texte est très pointu, il va entre autres récupérer cette donnée-là. Mais là, sur un truc comme ça, alors, il a probablement pris que des textes francophones, parce que DPF, c'est français. Donc il a compris, et puis de toute façon, il vous calcule, quoi. Donc il sait d'où on parle. Moi, des fois, je lui pose une question qui n'a rien à voir, et il me répond du point de vue de la PJM. Je lui dis non, mais stop. Donc je suis obligé de lui dire, là, je ne suis pas... Il l'a dit ce matin, comment il a appelé ça, les... Il a dit qu'il y avait un... Non. Non. Non, c'est pas les... Il retient les... Bon, je sais plus, il a dit, il y en a 15 000 ou je sais pas... Non, mais...
Allez, 20 000.
Oui.
Les 20 000 mots.
Après, il oublie le contexte,
ah oui,
mais pendant 15... un certain temps, voilà.
Ouais, c'est pas 15 000, c'est je sais pas combien de milliers.
Un million, voilà, voilà.
De mots donc, et qu'il efface après, mais donc ça.
Oui, voilà. Donc il va, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été chercher, il a été chercher tous les textes qui décrivent la. Alors, ce qui est évidemment en puissance de calcul, on imagine. Enfin, nous qui avons connu le Minitel, on comprend pourquoi il faut une centrale nucléaire pour alimenter le bazar. Bon. Alors. Donc là, c'était juste... je reconnais que ça ne va pas bien loin. Hein, c'est juste pour moi. Bon, j'ai fait d'autres trucs. Bon, j'ai pris DPF. On voit que si on veut... construire un cadre de référence de la réflexion éthique ou juridico-éthique, on peut très vite produire une matière sur laquelle on va, qui nous aurait pris des heures à dire combien on a gna gna. Alors, deuxième étape, on passe à la clinique. Pardon. Alors, on passe à la clinique et je lui dis, donc au départ, je ne veux pas lui donner de cadre, je veux juste voir ce qu'il produit spontanément, entre guillemets. Évidemment, la spontanéité est à relativiser par rapport à ce qu'il va trouver sur Internet. Mais je lui balance un truc, je lui dis, fais-moi, j'ai mis le prompt comme ça, vous voyez, exemple complet de ce que je peux... Ah non, c'est pas le prompt, ça c'est sa réponse. Mais j'ai dû lui dire, fais-moi un cas d'éthique. Voilà ce qu'il propose, alors je sais pas si c'est idiot ou pas, tu l'as là, hein, tu peux le voir là. Donc il fait un truc, une famille de deux enfants, tant de loyer, etc., une seconde, hein. Et il dit là-dessus, il propose une trame d'analyse. Bon, c'est pas la nôtre, hein, donc après je l'ai corrigée. Après je lui ai rentré celle que nous on a utilisée dans le bouquin. Mais lui, spontanément, il dit, je vais regarder les options, je vais motiver la décision, je vais voir les contre-arguments, les mesures d'atténuation, l'information, patati patata. Il l'a pas mis, c'est possible. Après, on le rentre après, hein. Alors, là, je prends une vignette. Alors, comme je me suis fait engueuler sur les textes, j'ai réduit. Elle est dans le bouquin, c'est pour pousser à l'achat du bouquin. Donc là, on a un cas, c'est un délégué qui vous veut du bien. Je ne sais pas si vous vous en souvenez dans le groupe de travail. C'est une famille, alors vous me corrigerez ou vous compléterez si je me trompe, mais c'est une famille où il y a eu un signalement par l'ASE. Et puis, en fait, quand le délégué arrive, ben, les parents disent « Oui, on a été dans la muise à un moment, on a fait des conneries, mais là, on est en train de rétablir la situation, on a tous nos relevés bancaires, vous pouvez regarder, on n'a pas fait de conneries depuis 6 mois, les parents nous aident, on a partagé avec les enfants, on leur a expliqué qu'on avait déconné, que maintenant, on va fonctionner carré et tout, et si vous nous collez une mesure maintenant, ça casse tout. » Ça casse la dynamique, ils ne vont pas comprendre, et ça, c'est à peu près comme ça. Bon. Alors, lui, quand je dis lui, je ne devrais pas dire lui, c'est de la personnification. La machine, l'algorithme des algorithmes. Il y en a qui disent Dieu, quoi. Donc, il propose, donc je lui soumets le cas en entier. Hein, là, il n'y avait que le résumé, quoi, l'hyper-résumé. Je lui soumets le cas, il produit une analyse sur la base de la trame que vous avez vue tout à l'heure. On peut la regarder, mais je n'ai pas tout mis. Alors si ça vous... Je ne peux pas le balancer là, je pense que ça n'aura pas de sens, mais j'ai le Word complet qui fait une trentaine de pages où on voit tout le... Il produit du texte, il y a les prompts, il y a les réponses, on voit le... bon, je l'ai gardé parce que je me dis que c'est un cheminement, quoi. C'est un cheminement, et on voit comment, au fur et à mesure, et c'est ça l'apprentissage profond, si vous voulez. À un moment donné, vous savez, il y a eu l'apprentissage supervisé, non supervisé, tout ça. À un moment donné, il a plus besoin. Vous savez, au début, il y avait des milliers de gens. Vous savez pas ? Il y avait des milliers de gens qui checkaient les réponses de l'IA et qui disaient juste, pas juste, des milliers de gens payés dans des pays en développement. Bon, on a émis des milliers de gens pour qu'il apprenne, pour modifier les algorithmes, pour éviter toutes les hallucinations qu'il y avait au début. Maintenant, il y en a, par exemple, son niveau en mathématiques, et en 3-4 ans, il est devenu très, très élevé, quoi, en mathématiques. Bon. Donc il apprend, quoi, et quand on lui donne la trame et qu'on repose les questions, c'est ça qui fait intelligent. On n'a plus besoin de lui dire les choses, on a l'impression qu'il a compris. Alors évidemment, c'est que des chiffres, c'est que des numéros, c'est ça qui est incompréhensible pour moi qui ne suis pas mathématicien, c'est comment le sens peut être... C'est ça qu'on ne comprend pas. On dit qu'elle ne comprend pas le sens, l'IA. Mais quand on lit les choses, ça a du sens. Et c'est ça qui est un peu... Alors probablement, il faut laisser tomber cette question-là qui est métaphysique, quoi. Bon. Ensuite, je lui dis, mais nous, on a fait une trame. Le CNDP a fait une trame, je lui propose la trame, et il va faire l'analyse du cas selon la trame CNDP. Et après, je peux vous montrer quand même un petit peu, après, je lui dis, ben, compare les deux. Alors, si on prend la première... Oui, alors là, j'ai enlevé les diapos qui étaient vraiment trop lourdes avec tout le texte. Pardon. J'ai été directement à... je lui dis, fais-moi une comparaison entre... Après, si vous voulez voir, je ne sais pas si on aura le temps, je peux basculer dans le Word et vous montrer, mais je pense que ça va être un peu fastidieux à lire comme ça à un écran. Alors, il me dit... Là, j'ai rien retouché. Hein. Il me dit, entre ce que j'ai fait, moi, et ce qu'a fait le CNDPF, on converge sur les 4 points suivants. Reconnaissance du dilemme, importance de préserver la relation de confiance, nécessité d'une évaluation avant toute décision d'allègement. Donc ça, c'est sur le cas des parents qui ne veulent pas de la mesure. Il dit, mais on ne va pas l'enlever sans tester quand même. Bon, c'est quand même assez fin, quoi. Hein, c'est quand même assez fin. Et puis critère central de l'intérêt des enfants. Bon, là, vous me direz, il n'y a pas besoin d'être IA pour le dire. Et puis les divergences, il dit, ben, le groupe est beaucoup plus précis avec des citations légales, c'est ce que tu disais. Je propose KP Action, le groupe ouvre plus à la réflexion, ça c'était une volonté du groupe de dire ils m'ont freiné dans ma volonté un peu normative en disant il faut poser des questions, il ne faut pas trop aller vers la réponse, donc lui il identifie cette caractéristique. Et on a une matrice décisionnelle à travers le filtre éthique, hein, qui est dans le bouquin, et puis des outils comme ça. Et puis, il reconnaît une erreur, je crois. Hein, le groupe intègre les grands-parents que je n'avais pas mentionnés. Donc, il identifie le fait que... alors, évidemment, il ne l'identifie pas comme nous, à partir d'une réflexion consciente. Il l'identifie
comme un
à
élément,
travers des algorithmes qui ont traduit tout le texte en chiffres. Ils repèrent des chiffres qui ne sont pas dans une version, qui sont dans l'autre, et ils le retraduisent. Alors, voilà, ça, mais ça en une seconde. Bon, c'est voilà. Et puis, je lui dis, le groupe a travaillé avant que tu n'existes. Je me demande si en travaillant avec toi, on aurait pu mieux faire. Alors, là où il m'a sidéré... Non, mais là, je vous avoue que je ne comprends pas. Non, là, il y a un truc que je n'ai toujours pas compris. C'est dommage que... Je ne sais pas s'il y a des spécialistes de l'IA au sens technique. Je ne comprends pas comment il peut dire honnêtement oui. Oui, mais ça... Je comprends. Là, je vous avoue, je ne comprends pas, parce que pour moi, honnêtement, oui, c'est un signal de conscience de soi. Parce qu'il dit honnêtement, oui, ça veut dire, il sous-entend, j'ai compris que ça allait te vexer un peu. Non, mais c'est ça. Ben, honnêtement, oui, je suis un peu meilleur que toi, mais je voulais pas te le dire. Bon. Alors, comment il fait ça
Il est ton ami.
Bon. Il structure plus vite, c'est vrai. Alors, garder l'équilibre entre la précision juridique et la réflexion éthique, je ne sais pas. Oui, l'effet levier. Oui, peut-être, je ne sais pas trop. Proposer plusieurs niveaux de restitution, ça c'est vrai. Si vous lui dites, fais-moi 10 pages d'analyse là-dessus, il va vous sortir 10 pages. Non, mais c'est vrai. Si vous lui dites 5 pages, si vous lui dites 3 pages, et vous allez voir après, il s'adapte à des niveaux de langage. Ça, c'est vachement intéressant pour nous dans l'accompagnement, avec des personnes qui peuvent avoir des déficiences intellectuelles ou pas bien connaître la langue, etc. etc. En gros, avec moi, comme facilitateur, rédacteur, le groupe aurait pu garder toute sa richesse d'idées et de vécu, mais en gagnant en temps, en clarté, en impact.
Ouais, mais comme c'était pendant le Covid, on avait du temps.
Moi, je vous avoue que pour rédiger ça, il me faut du temps. Il me faut du temps, et qualitativement, je ne suis pas sûr d'identifier tous les points qu'il identifie là. Donc, je tire mon chapeau. Alors, à qui, à quoi, je ne sais pas. Alors, je lui dis maintenant, sur ce cas-là, alors je l'ai fait sur d'autres cas, mais bon... J'ai ciblé sur un cas, alors oui. Vraiment pris aléatoirement.
Hein. Oui.
Vous m'en voudrez pas de ne pas en analyser 5, non.
Non, on t'en veut de rien.
Bon, alors, je lui dis, prends en compte le point de vue des parents, le point de vue des enfants, parce que ça rejoint toute une réflexion qu'on a, nous, depuis 2-3 ans, sur la démarche éthique, où on est autocritique sur le boulot qu'on fait depuis une vingtaine d'années. On dit, on n'a pas assez intégré le point de vue des personnes concernées. Et là, je suis en train de monter des projets où on va bosser sur l'éthique, mais pas avec vous, avec les personnes accompagnées, et sur leur réflexion éthique. Et voir comment ça peut avoir un effet de levier sur l'autodétermination de ces personnes, d'avoir une réflexion éthique sur leurs problèmes d'éthique. Parce que les questions d'éthique qui sont travaillées depuis des années et encore aujourd'hui partout, ce ne sont que les questions d'éthique des professionnels. On ne traite jamais des... Alors, je ne vous parle pas d'avoir le point de vue de la famille sur le problème d'éthique du professionnel. Ça on ne le fait pas beaucoup. Moi, je vous parle des problèmes d'éthique du parent qui se dit, est-ce que je vais dire au délégué que... Est-ce que je vais dire au délégué qu'on a fait ça ou ça? Est-ce que je vais dire au délégué que je suis déclaré seul à la CAF, mais en fait, je suis avec quelqu'un et...
On le sait.
Comment la grosse bagnole qui est en bas, c'est bon. Ça, c'est un problème d'éthique pour la personne. Et puis au début, j'avais pas pensé donc je vous ai remis le truc. Hein, c'est pour ça que c'est un peu brut de décoffrage. Après, je me suis dit, on va aussi rentrer le point de vue du délégué. Alors, encore une fois, je peux pas vous montrer tout. Je l'ai mis le texte. Hein, je peux vous. On n'a pas le temps. Donc, oui, je pourrais être utile, mais pas comme un DPF. Je ne peux pas agir dans la réalité. Je peux être soutien indirect, clarifier les enjeux, etc., etc. Alors, attends, là, je suis pour la famille. Là, je lui dis, dis-moi, comment tu pourrais aider la famille ? bon, je ne vais pas tout lire, je résume, il se met à la place de la famille, il anticipe l'entretien avec le délégué qui va venir, et il donne une il donne même des éléments de langage. Hein, dans le text Word, il y a des phrases entières où il dit voilà ce qu'il faut que vous disiez au délégué.
Non, c'est ça.
Je prends la place de la compagnie après. Donc, il se met à la place de la famille et il dit, voilà, le problème du délégué, c'est ça. Lui, il a une mesure, il a un juge derrière, il faut que vous lui expliquiez, il faut faire ça, il faut dire, si vous voulez garder vos animaux, voilà comment il va falloir faire. Ensuite, il se met à la place des enfants. On commence par dire ce qu'on aime, on explique ce qui est difficile, on propose des idées, on se prépare aux questions du DPF. Comment on termine l'entretien? Ça, c'est ses rubriques. Dans le Word, vous avez tout le texte où il dit ben, « Expliquez aux délégués pourquoi les animaux sont importants pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte ?» Mais, donc, tu vois, il dit « Mais attention, faites pas comme s'il n'y avait pas de problème. Dites-lui les problèmes que vous avez pour faire vos devoirs. Dites-le honnêtement. Parce que si vous n'êtes pas honnête, ça ne va pas fonctionner. » Même chose avec les parents, et après, même chose avec le délégué. Donc là, je vais arrêter de suivre le truc. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais et là, je me rends compte, et c'est là que je suis sorti du truc de l'éthique. Je me dis, mais attends, la question, c'était comment l'IA peut m'aider à conduire une réflexion éthique sur une situation, et en creusant un peu, je me rends compte que ça va au-delà. Elle peut nous aider dans le cœur de métier. Alors évidemment, je fais une fiction qui serait que la famille est en capacité d'accéder à des contenus comme cela, culturellement, techniquement, etc., ou que le délégué puisse lui présenter avant. Donc c'est bien sûr, il y a quelque chose d'utopique un peu dans le truc, mais peut-être dans certains contextes. Mais je me rends compte à ce moment-là que on pourrait avoir un outil. Alors là, j'avais mis double entrée. En fait, plus loin, c'est triple entrée. Famille, enfant, délégué. Un outil qui existe là, hein, qui fonctionne. Alors après, il a planté sur le développement de l'appli. On avait été jusqu'au développement de l'appli avec le cahier des charges et tout, et là, il a planté. Mais on pourrait avoir une appli où, en expliquant une situation ou en rentrant le dossier qui décrit la situation de la famille. Il fasse toute cette analyse et il prépare en fait il prépare les parents, il prépare les enfants. Alors dans les textes, si vous les regardez ou si je vous envoie, ou je sais pas, enfin je vous le dis comme ça, dans l'histoire il y a un enfant de 9 ans, un enfant de 12 ans ou je sais plus, ouais, et ben il parle pas pareil, il fait deux versions, une version 9 ans, une version 12 ans en niveau de langage. Et donc, l'enfant accède à un contenu qui n'est pas en falque, mais qui correspond au niveau de langage moyen d'un enfant de 9 ans. Et pareil pour celui de 12 ans. Après, les parents, bon, ben, ils parlent comme à des adultes, évidemment. On pourrait lui demander d'utiliser un langage plus illustré si on a des personnes qui maîtrisent mal la langue française ou des choses comme ça. Bon, en plus, on a vu ce matin qu'il pouvait faire de la traduction.
Il nous reste un quart d'heure.
Oh, ça va, je suis presque fini là.
C'est bien, parce ouais. qu'on aura des questions.
Et donc le l'idée ou l'hypothèse que je vous soumets, celle sur laquelle on pourrait bosser si ça rencontre un intérêt, j'en ai aucune idée, on n'a pas parlé avant non plus, c'est de travailler là-dessus et de voir. Si, sur un pilote, hein, sur petite expérimentation, de voir si on pourrait créer de la valeur ajoutée avec ce dispositif-là, en préparant une visite, un entretien, un échange, de cette manière-là. Ouais, voilà, là je dis à peu près la même chose et j'ai quasiment fini. Donc là où ça a planté, c'est qu'à un moment donné, je lui demande s'il pourrait faire une application, parce qu'il y a aussi tout le problème de la confidentialité et tout, il faudrait héberger en local et ainsi de suite, mais je lui demande s'il pourrait faire une application qui fasse ce boulot-là. Et il me dit oui. Il me dit, est-ce que tu veux que je la coach? Je dis oui, et puis là, il a planté. Donc, je pense que là, il faut basculer. C'est là aussi que je rencontre mes limites de compétences sur la technique. Il faut probablement basculer sur une appli, une IA spécifique qui ferait le développement. Quoi. Là, je ne sais pas. Et puis là, avec quelqu'un comme Sylvain, si jamais on se lançait dans une expérimentation, je pense que là, il apporterait toute sa valeur ajoutée en disant, c'est comme ça qu'il faut faire. Quoi. Moi, ça me paraît. Moi, j'ai été assez bluffé, assez intéressé par l'idée d'aller plus loin dans cette direction-là, sur l'éthique, mais plus largement sur une sorte d'accompagnement augmenté ou assisté. Je crois peut-être que là, il vaudrait mieux dire assisté par une préparation via l'IA. Parce que je pense aussi que. Franchement, moi, je pense aussi que. La compréhension qu'il a montrée de l'attachement des enfants aux animaux, je ne suis pas sûr qu'on l'ait tous spontanément. Je ne suis pas sûr. Bon, je ne veux pas être provocateur ou désagréable, hein, mais je pense qu'on a un effort parfois à faire pour comprendre l'autre, surtout quand il est très différent dans son style de vie. Ou c'est, Enfin, je ne sais pas si j'arrête là ou. Ouais. Non, mais je vous donne juste un exemple qui n'est pas en. Il va encore râler, Benoît, mais qui est en PJM. C'est une histoire que j'aime bien, c'est la cuisine sur mesure. J'y vais à grande vitesse. Monsieur est en situation de handicap, il a l'âge, tout ça. Son épouse est propriétaire de la maison, elle n'est pas en situation de handicap, et elle gagne 3 fois plus que lui. Ils veulent acheter une cuisine, installer une nouvelle cuisine. Le monsieur veut payer la moitié de la cuisine. Ça éponge son épargne. Le délégué dit, c'est pas possible. Mais il a un doute et il nous pose le problème comme un problème d'éthique, une situation d'éthique. Il nous a fallu beaucoup de temps pour dire ça veut dire quoi, je paye la moitié. Moi, je vous assure que il nous a fallu beaucoup. Il nous a fallu du temps. Je ne peux pas dire combien, je ne me souviens plus. Il nous a fallu du temps pour arriver à dire à un moment donné, attends, payer la moitié, ça veut dire être à égalité. J'ai une épouse qui n'est pas en situation de handicap. Elle gagne 3 fois plus que moi. Je suis en situation de handicap. J'ai juste une épargne qui me permet de payer la moitié de la cuisine. Et il a fallu. Je pense que l'IA, en une seconde, elle va voir ça. Elle va voir ça. Alors ça ne veut pas dire qu'elle résout le problème à notre place, hein. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ça veut dire que je gagne du temps pour approfondir la réflexion, pour aller chercher un peu et tout ça. Merci de votre attention.
Une petite question déjà. L'IA a-t-elle donc de l'empathie ?
Est-ce que nous avons de l'empathie? Je me sens pas très légitime pour répondre. Je vais quand même essayer, mais avec les réserves que j'ai dites sur la compétence technique et tout, elle n'a pas d'empathie parce qu'elle ne ressent rien. Un algorithme ne peut pas ressentir quelque chose. Donc si vous le programmez pour tuer tout le monde dans cette salle, il le fera sans aucune... Il n'a pas de... À aujourd'hui, il n'a pas de sentiment, il n'a pas de rapport au monde. C'est tout ce qui fait le problème des... L'intelligence générale, parce que le rêve de l'intelligence artificielle générale se heurte au fait qu'elle n'a pas de compréhension du monde. C'est tout est réduit à des chiffres. Deuxième réponse qui est contradictoire avec la première, si vous la posez autrement en disant est-ce qu'elle est capable de formuler des phrases qui témoignent de façon pertinente d'une empathie, oui, et mieux que nous. Et mieux que nous, parce que nous, on a nos problèmes, on va penser à nous-mêmes. Si,
On a notre pudeur.
Moi, je disais l'autre fois à un groupe, je leur disais, où est-ce que je vais trouver un délégué qui passe 3 heures avec moi pour discuter de ce type de problème ? Et rester concentré sur ma problématique et qui me donne... Où est-ce que je vais le trouver ? Je peux le trouver dans un cadre, c'est compliqué. L'IA, tout de suite, j'ai quelqu'un, si je lui décris une situation, il va produire des énoncés qui correspondent à ce que dirait quelqu'un qui a compris ma problématique. Et c'est, vous revenez au Turc automate, ça sera très difficile de résister à l'idée que c'est quelqu'un. Pourquoi ? Parce qu'il est capable, plus que nous, d'être concentré sur le problème de la personne. Si vous voulez, comme il n'a pas de conscience.
Pas d'état d'âme.
Il n'a pas d'ego. Le problème, c'est que nous, on est envahis par nos égos. Pourquoi on ne peut pas faire... Enfin, on fait un peu d'empathie, mais plutôt avec nos enfants qu'avec ceux qui sont à l'autre bout du monde. Pourquoi on n'a pas d'empathie généralisée ? Mais parce qu'on a nos enfants, notre ego, nos craintes, nos trucs, nos machins. Lui, il n'a rien de tout ça. Donc si vous arrivez, et il n'a aucun préjugé, alors sauf, évidemment, on l'a dit, les LLM, comme ils absorbent tous les textes, il y a des textes extrémistes et tout, il y a un danger qu'il est. Mais si on met à part l'IA en santé, elle n'a aucun préjugé. Donc que vous soyez comme ci, comme ça, beau, pas beau, grand, maigre, en situation de handicap ou pas, etc., elle vous parle de la même manière. Ce qui n'est pas le cas d'un professionnel. Un professionnel, bien sûr, on ne pourra jamais atteindre ce niveau de neutralité. On n'aura jamais exactement le même comportement avec... le président de l'université, et puis avec le type avec les 3 chiens et les bouteilles qui est tout sale dehors dans la rue, on n'aura pas, on va faire preuve de respect, ça sera un effort, mais on n'aura pas le même niveau de, je crois pas. Pas spontanément, c'est un effort. L'IA est, pardon, je suis long dans la réponse. Donc empathie, oui et non.
Alors on n'a eu qu'une seule question écrite, est-ce que quelqu'un a d'autres questions ?
Non, pas lui.
Benoît. Non, pas lui.
Benoît, on t'écoute.
Non, en fait, tu dis que c'est un peu intéressant la question de la valeur ajoutée, en fait, dans la plus-value pour une réflexion avec l'IA. Mais du coup, moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est pour qu'il y ait cette valeur ajoutée, c'est qu'on puisse avoir le point de vue réel, comme tu dis justement, aller prendre le témoignage, le point de vue du parent, le point de vue de l'enfant, le point de vue du professionnel, le point de vue du partenaire de l'ASE, qu'on prenne ces témoignages-là et qu'ensuite, on les renseigne en savoir empirique. Parce que là, en fait, dans ce que tu exposes, le risque est que justement, on ne vienne pas nourrir une réflexion éthique, qu'on vienne construire une éthique à partir de l'existant. Et là, j'ai fait le test, là, pendant que tu parlais avec ChatGPT, sur la question de est-ce que je dénonce à la CAF ou pas quelqu'un qui gruge le système, quoi, voilà. Et la réponse, il a maintenu tout le coup, il m'a dit, bah oui, c'est dans ton rôle, tu dénonces à la CAF. Donc tu appelles, tu suggères l'invitation, donc j'ai dit, mais il y a quand même une dimension éducative. Et répond, tu as parfaitement raison, et en gros, tu mets le parent en copie de ton réglage. C'est comme ça que tu l'as
fait. Oui, alors... Ouais. Alors, vous noterez que l'IA n'aurait pas fait de discrimination entre les jeunes délégués et les moins jeunes délégués. Quoi. Oui, alors, j'ai voulu aussi résumer, synthétiser. En fait, ce que j'ai présenté, l'idée, c'est que ça serve à chacun pour préparer l'entretien. C'est pas à la place de l'entretien. C'est de dire, on arrive à l'entretien, mais en toute transparence. C'est pas les enfants préparent en cachette, les parents préparent en cachette. Non, c'est... En toute transparence, on utilise ce support-là comme médiateur dans la relation pour aller plus vite vers le consensus. Et en fait, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'à un moment donné, il dit, ben, voilà les 3 points de vue, tu pourrais l'élargir, hein, mettre le juge, et voilà la zone de consensus. Il dit, ce sur quoi vous pourriez vous rencontrer et être d'accord, comme avec la famille que j'ai montré au début, il dit, ben, si vous dites au délégué on ne veut pas de mesure, c'est mort. Vous allez vous faire renvoyer dans vos buts. Pourquoi ? Parce que le délégué, il a le juge, machin, bidule.
puis là, le service qui lui a dit qu'il fallait l'ASE, etc. Il dit, soyez plus malin, plus fin, dites-lui que vous êtes d'accord pour une mesure, mais mollo, sur une durée provisoire, et puis expliquer aux enfants que c'est ci et là, etc. etc. Donc c'est ça, je ne pense pas qu'on dise autre chose. C'est introduire, alors je peux pas dire un tiers, parce qu'il y en a, introduire une sorte de médiation dans l'accompagnement qui amène des effets de levier. Après, sur la valeur ajoutée, moi je pense aussi, et je pense que c'est ça qui nous fait un petit peu peur, je pense aussi que l'IA souligne par certains côtés notre fainéantise, parce que il y a des sujets où on bosse pas assez, on réfléchit pas assez, on se remet pas assez en question. Donc, si vous voulez, par rapport aux entretiens médicaux, moi ce qui m'a frappé, cette histoire de, mais il souligne le fait que, moi j'en discute avec des généralistes aussi. C'est devenu des mécaniques. Donc le fait que l'IA arrive et puis fasse deux fois plus empathique et puis les trucs, ben oui, si le travail. Donc ça souligne le fait que ça va nous obliger à un effort important de développement de notre intelligence naturelle. C'est un coup de pied au derrière pour dire, on va devoir être. Donc l'IA ne remplacera pas les gens. Les gens qui utilisent l'IA remplaceront les gens qui ne l'utilisent pas. Mais l'IA ne remplacera pas les gens. Mais elle va nous obliger à...
Et est-ce que ça ne pourrait pas aussi, quelque part, soulever la question d'un rapport de pouvoir entre, justement, le délégué, les familles, et de pouvoir, justement... augmenter leur niveau de participation à la résolution de leurs propres problèmes, sans qu'on vienne de manière intuitive, construite, enfin, on peut mettre plein de choses derrière, mais sans qu'on vienne y mettre notre patte et parfois quand même décider pour eux. On a beau lutter contre ça, on est quand même... très souvent dans une position de sachant vis-à-vis d'eux. Et ce que pourrait nous permettre, je ne sais pas, cette histoire-là, c'est de rééquilibrer ces histoires de pouvoir, puisque l'accès à la connaissance et au raisonnement serait plus facilité.
Oui, je suis d'accord. Ce qu'on dit aussi dans le bouquin sur l'accompagnement, c'est que la relation d'accompagnement, c'est une relation d'égalité de droit, mais c'est une relation d'asymétrie de fait. Bon, ça, tout le monde le voit bien, parce qu'on a d'un côté un délégué qui est adossé à une institution et qui a X mesures, et de l'autre côté, une famille qui est seule et qui n'en a qu'une. Donc, il y a, outre les compétences, les diplômes, le truc, tout ce que vous voulez. Donc, la relation d'accompagnement, qui théoriquement est une relation égale, ça, dans toute la littérature, on dit, il y a une égalité de valeur entre l'accompagnant et l'accompagné. Mais par contre, il y a une asymétrie de pouvoir qui est très importante. Donc moi, je pense qu'il y a, il y a deux trucs. Il y a ce que tu dis, c'est-à-dire l'IA, une fois qu'il y aura des systèmes pour donner accès facilement à l'interface, l'IA va permettre aux gens de très vite de savoir où sont leurs droits, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'ils peuvent refuser, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas refuser, tout ça. Et puis d'autre part, moi je crois qu'assez vite elle va permettre de créer des communautés de personnes accompagnées. Je crois beaucoup que la paire aidance va être favorisée par l'IA. Et donc une fois que si la personne arrive à sortir un petit peu de l'isolement à travers cet outil, oui, ça peut rééquilibrer les relations de pouvoir.
Bon, ils en ont marre.
Moi je crois qu'on en a marre, pas de toi, mais de la journée.
Merci beaucoup, Jean-Jacques.